Le journal Lucas Waldener, bonsoir.
Bonsoir. Le masque en entreprise s'est acté, ce sera systématique à la rentrée. Le gouvernement l'annonce aujourd'hui, détail et réaction dans un instant. La mairie de Paris soutient-elle encore Christophe Girard? L'ancien adjoint est aujourd'hui visé par une enquête pour viol. Christophe Girard se met en retrait du Conseil de Paris, on l'apprend à l'instant. Aux États-Unis, la convention démocrate bat son plein. Et pendant ce temps, que fait Donald Trump? On va à Washington dans ce journal. Et puis la Ligue 1 de foot, chamboulée par le virus. Le match d'ouverture est reporté et ça n'augure rien de bon pour la suite, déplore Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Étienne.
France Inter.
Le gouvernement a donc pris sa décision. Le port du masque deviendra systématique en entreprise d'ici la fin du mois. Annonce faite à la sortie d'une réunion en visioconférence entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux. Bonjour Maxime Deptz.
Bonjour.
Préparons-nous donc à travailler masqué dès la rentrée.
Oui, masqué partout, dans les salles de réunion, dans tous les espaces de circulation, les couloirs, mais aussi dans les open space, ils étaient jusqu'ici épargnés. Les ateliers partagés par des ouvriers, les ascenseurs, partout. Le masque va désormais devoir s'imposer. Seul échappe à la règle, les bureaux individuels. Rappelons que le protocole actuel n'impose le masque que dans une seule situation, lorsque la distanciation d'un mètre n'est pas respectée. C'est donc une évolution majeure. La ministre qui continue de préconiser le recours au télétravail, notamment dans les zones de circulation active du virus, à partir du moment où le salarié est en capacité de travailler de son domicile. Peut-être que le durcissement de la réglementation au bureau les incitera de fait à rester chez eux, on verra. Elisabeth Borne qui incite en tout cas les partenaires sociaux à entamer les négociations sur le sujet du télétravail. Une réunion entre syndicats et patronat est prévue le 2 septembre pour en discuter.
Maxime Deptz, merci. Et le coût du masque dans tout ça? Eh bien, il sera à la charge de l'employeur. Réaction de Stéphanie Poza, vice-présidente déléguée de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le masque, il faudra bien faire avec, même si la contrainte est évidente.
Une contrainte pour les deux. Le salarié, 7 heures le masque toute la journée, c'est vrai que c'est pas forcément évident, y compris pour le patron. Maintenant, on a toujours dit que, de toute façon, si on devait nous demander le port du masque obligatoire dans toutes les entreprises, on le ferait. Je vais pas vous dire qu'on accueille cette nouvelle avec un grand sourire, parce qu'effectivement, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Mais de toute façon, ça fait partie du droit du travail, c'est que l'employeur doit assurer la protection de ses salariés. Toutes les EPI, donc les éléments de protection individuelle que l'on doit fournir à nos salariés dans le cadre de la protection de sa santé, est à la charge de l'employeur. Donc le masque en fait partie.
Stéphanie Poza, vice-présidente déléguée de la CPME. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol. Elle vise à examiner les accusations portées contre l'ancien adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard. Accusation portée dans le New York Times par un homme qui dénonce une relation abusive dès l'âge de 15 ans. Christophe Girard conteste les faits et on l'apprend à l'instant, il se met en retrait du Conseil de Paris, selon l'avocate. Ce soir, Laurence Perron, la mairie de Paris prend ses distances avec celui qui reste élu quand même qui restait il y a encore quelques instants élu dans le 18e arrondissement.
Alors pour l'instant, il n'est qu'en retrait du groupe. Hein. La situation était devenue intenable pour la maire de Paris. Elle n'a pas eu d'autre choix que de lâcher un homme qui fait partie pourtant de ses soutiens historiques, hein, très proche de Bertrand Delanoë, auquel elle doit sa première élection à la mairie de Paris. Depuis les révélations du New York Times, le doute s'était emparé des proches d'Anne Hidalgo. L'ouverture de l'enquête préliminaire ce matin pour viol a emporté la décision. Il a été convenu que c'est d'abord Rémi Féraud, le sénateur de Paris, président de Paris en commun, qui communiquerait un tweet à 17h30 où il demande à Christophe Girard de se mettre en retrait du groupe au Conseil de Paris. Une minute plus tard, trois tweets sans équivoque sur le compte d'Anne Hidalgo. « Je me satisfais de l'enquête préliminaire », écrit-elle, qui s'ouvre et qui permettra à la victime de s'exprimer compte tenu de la gravité des faits reprochés à Christophe Girard. En tant que maire de Paris et militante féministe, je réaffirme mon soutien indéfectible à toutes les victimes et serai toujours de leur côté. Je crois à l'état de droit et souhaite que cette enquête se déroule sereinement. Une expression assez cinglante, il n'est même pas question de victime présumée. Christophe Girard en a pris acte. Effectivement, il se met en retrait du groupe, mais pour l'instant, il ne démissionne pas.
Et toujours selon l'avocate de Christophe Girard conteste les faits qui lui sont reprochés ce soir. Merci Laurence Perron pour France Inter. Le maire d'Apatou en Guyane est présenté en ce moment à un juge d'instruction au palais de justice de Créteil en vue de sa mise en examen. Le parquet va demander son placement en détention provisoire.
Interpellé le week-end dernier à l'aéroport d'Orly avec 2,5 kg de cocaïne, l'élu serait tombé de sa chaise en découvrant le contenu de sa valise. Il aurait voulu rendre service à des amis et il clame son innocence. Après 6 ans de procès, le verdict est tombé. Le tribunal spécial pour le Liban, basé aux Pays-Bas, reconnaît coupable un membre présumé du Hezbollah dans l'assassinat il y a 15 ans du premier ministre libanais Rafik Hariri. 3 autres suspects sont acquittés. La parole est à Bill Clinton. L'ancien président des États-Unis est attendu tout à l'heure pour un discours à la convention démocrate. Convention qui doit investir le candidat Joe Biden pour affronter Donald Trump à la présidentielle le 3 novembre. Donald Trump, justement, il ne se prive pas de commentaires sur l'événement, lui qui occupe le terrain avant une autre convention, côté républicain cette fois, prévue la semaine prochaine. Grégory Phillips.
Hier après-midi, il était dans le Wisconsin, l'état où devait se dérouler cette convention démocrate. Aujourd'hui, Trump est en Iowa pour constater les dégâts d'une tempête qui a frappé l'état la semaine dernière. Puis ce soir en Arizona pour parler immigration et mur de séparation à la frontière mexicaine. Donald Trump laboure le terrain. Un autre déplacement présidentiel est prévu après-demain à Scranton, Pennsylvanie, dans la ville natale de Joe Biden, le jour où l'ancien vice-président est censé accepter l'investiture de son parti. Trump se démultiplie donc au moment où toutes les caméras sont tournées vers la convention démocrate, qu'il a évidemment suivie hier. Ses commentaires sur la prestation de l'ancienne première dame, Michelle Obama, sont acerbes. Elle a prononcé un discours de division, dit-il, et elle ne devrait pas oublier que je ne serai pas à la Maison Blanche sans l'œuvre de son mari, Barack Obama. Les équipes de campagne de Trump, enfin, viennent de dévoiler un nouveau spot télévisé, particulièrement agressif à l'égard de Biden, accusant à demi-mot le candidat démocrate de 77 ans d'être carrément sénile. La campagne va durer encore 2 mois et demi et elle sera violente. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et la présidentielle en pleine convention démocrate aux États-Unis, c'est le thème du téléphone sonne. Rendez-vous juste après le journal de 19h. En France, le coup d'envoi de la Ligue 1 de foot est reporté. En cause, 4 cas de contamination au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Le match d'ouverture au M Saint-Etienne ne se jouera pas vendredi soir, mais à la mi-septembre. C'est une décision de la Ligue. Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, est désabusé.
Je la comprends dans la mesure où ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion de savoir si ce sont les bonnes. Parce que je vois pas dans ces conditions le championnat pouvant se dérouler tout à fait normalement. Donc, dès la première journée, on se retrouve avec un handicapé de cette manière. Et ça continuera pour les autres journées. Et il n'y aura pas des dates pour rattraper systématiquement les matchs reportés. Là, on aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. Dans ces conditions, prévoir le championnat, sincèrement, je suis très pessimiste quant à sa tenue. Si c'est une question de prudence, bien, il faut tout arrêter.
En revanche, à Lisbonne, on joue pour de bon, une soirée pour l'histoire. Le PSG peut décrocher sa toute première finale de Ligue des Champions ce soir à condition de renverser le club allemand de Leipzig, coup d'envoi à 21h et nous serons sur place avec les supporters parisiens à 19h. Elle avait enchanté la rentrée littéraire de 2016 avec son tout premier roman, Désoriental. Negar Djavadi est de retour. Son deuxième livre s'appelle Arène, une plongée dans l'univers des séries, un décor, celui des quartiers de l'Est parisien. Ilana Moriousef.
Il y a 20 ans, le très ambitieux Benjamin Grossman aurait sans doute été un prince de la finance. Mais on est en 2020, c'est donc sur la branche Europe de Big Current, un avatar fictionnel de Netflix, qu'il règne depuis peu. Negar Djavadi.
Benjamin Grossman est quelqu'un qui est arrivé là où il voulait arriver, mais il est arrivé dans la série, parce que c'est possible dans la série, c'est un territoire très très neuf. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest. C'est un conquérant en fait, il a changé de classe. Et quelque chose le rattrape, et quelque chose qui vient du quartier où il a grandi.
C'est un incident banal en apparence, le vol de son portable, qui de fil en aiguille l'entraîne jusqu'au drame dans une course-poursuite à travers des quartiers qu'il croyait avoir laissé derrière lui pour toujours. Des petits trafics, des jeunes qui zonent, des migrants sous des tentes et surtout une drôle de fille qui chaque matin, de façon obsessionnelle, se poste au même endroit et filme dans l'espoir qu'il se passe quelque chose.
Il y a des gens qui sont à la chasse de violences policières et Camille en fait partie. Et elle a filmé la bonne image. Une belle image, une image provocante. Ça marque et ça fait le buzz et ça fait l'émotion et ça fait l'argent aussi. Hein. Le fait qu'on ait tous aujourd'hui une caméra dans notre poche, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ça a toujours été une arme, une caméra. Et on l'a.
C'est de cet empire des images qu'il est question dans Arène, ce qu'elles montrent, ce qu'on leur fait dire, ce qu'elles font à nos vies, pour le meilleur et pour le pire.
Arène de Negar Djavadi, aux éditions Liana Levy, disponible en librairie dès jeudi. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
On change de temps demain.
Et oui, retour de la pluie par la Bretagne dès cette nuit. Demain matin, il pleuvra bien jusqu'au Pays de la Loire et à la Normandie. L'après-midi, ces pluies progresseront même vers la région parisienne, le nord de la Seine. On aura du vent sur les côtes de la Manche. Sur les autres régions du nord, un ciel bien voilé, du soleil sur la moitié sud et des températures qui vont monter. On attend jusqu'à 36 degrés à Auch, 35 à Montauban, 28 degrés à Strasbourg, 26 à Nantes, Paris, Lille et 21 à Cherbourg.